Je vais partager avec vous ce matin six vérités que nous trouvons dans la Bible concernant la joie. Je vais commencer avec une question. Est-ce que vous savez que Dieu nous donne la commande, le commandement d'être joyeux? Est-ce que vous le savez? Ce n'est pas une question, c'est un commandement. Dans le psaume 37, verset 4, c'est écrit, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur demande. » Donc, premièrement, ce matin, Dieu nous a créés pour sa gloire. Dieu nous a créés pour sa gloire. En Ésaïe, chapitre 43, il dit, « Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens pas. Fais venir mes fils de loin, et mes filles des extrémités, de loin, et mes filles des extrémités de la terre. Quiconque est appelé de mon nom. » Dieu nous a fait pour que nous magnifions sa gloire. Et c'est un peu comme un télescope. Comme un télescope magnifie les étoiles qui sont très, très, très loin. Et c'est un peu la même chose avec nous vers Dieu. Dieu nous a créés pour que nous montrions sa bonté, pour que nous montrions sa vérité, pour que nous montrions sa beauté, sa sagesse, sa justice. Et la meilleure façon dont nous pouvons montrer la gloire de Dieu est en faisant de lui nos délices, et nos délices les plus profondes. Et en faisant cela, ça signifie que Dieu reçoit notre louange. Et nous, nous recevons sa joie en retour. Dieu nous a créés afin qu'il soit glorifié. Et nous, c'est à ce moment-là que nous sommes le plus satisfaits en lui. Donc Dieu nous a créés pour sa gloire. Mettez-le bien dans vos têtes. Deuxièmement, chaque année, je viens de découvrir qu'il y a un petit faux de frappe. J'ai loupé le 2 à la fin. Chaque être humain devrait vivre pour glorifier Dieu comme il devrait de l'être. Ou l'être, c'est bon? Wouhou, un point. Bon, allez. Chaque être humain devrait vivre pour glorifier Dieu comme il devrait l'être. En la première lettre aux Corinthiens, en chapitre 10, il est écrit, « Ainsi, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites toutes choses. » Et j'aime bien que Paul, pendant qu'il écrit ce lettre aux Corinthiens, qu'il mette des choses qu'on pense que c'est les plus bas, des choses qui sont fondamentales de notre vie, manger, boire. Et si Dieu nous a créés pour sa gloire, comme nous a déjà dit, il est clair, juste pour moi, j'espère que pour nous tous, il est clair que nous devons vivre pour sa gloire. S'il nous a créés, encore une fois, si Dieu nous a créés pour sa gloire, il est clair que nous devons vivre pour sa gloire. Et c'est à cause de ces desseins que nous avons des devoirs à faire. Je sais que c'est les vacances, que les vacances commencent, mais il y a toujours des devoirs à faire. Puis notre première obligation est donc de montrer la valeur de Dieu par notre satisfaction pour tout ce qu'il est pour nous. pas seulement pour tout ce qu'il a fait pour nous, mais pour ce qu'il est pour nous. Et c'est dans cette satisfaction que se trouve l'essence même de notre amour pour Dieu. Maintenant, on va lire Matthieu chapitre 22, verset 37. C'est un des versets qui est facile à lire, mais pas toujours facile à vivre. D'aimer notre Seigneur de tous nos cœurs, de toute notre âme et de toute notre intelligence. Ouh. C'est beaucoup, hein? Et si nous sommes honnêtes, c'est pas tout le temps que nous donnons tout que nous sommes. Mais ce que Dieu demande est ce que... Pardon. Mais ce que Dieu demande, que nous l'aimions avec tout notre cœur, tout notre âme, toute notre intelligence, point pour les circonstances qui nous entourent. Parce que les circonstances changent tout le temps. Et quand on est un musicien, ou des fois on fait le louange, ou le prédicateur, on vous regarde. C'est vrai. Et on peut dire, ah, regarde. Avec lui, ça ne va pas. Mais oui, ça va. Parce que c'est écrit sur le visage. Donc les circonstances changent, mais Dieu ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et toujours. Donc c'est dans cette satisfaction de qui Dieu est, et le fait qu'on aime le Seigneur de tous nos cœurs, de toute notre âme et de toute notre intelligence. Et aussi la confiance que nous avons et que nous mettons en lui. C'est en 1 Jean, chapitre 5, versets 3 et 4. Quelqu'un l'est?
Car l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau. Par tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi.
Ah, merci Fabrice. Wow. Gardions ses commandements. Beaucoup de gens disent, oh, je dois garder les commandements de Dieu, c'était dur. Waouh. Mais ici c'est écrit, ces commandements ne sont pas un fardeau, ne sont pas très difficiles à faire. Et il continue, parce que tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde, vainqueur des circonstances. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi en Dieu. Tout retourne à lui. Et c'est la racine de toute obéissance véritable qui nous conduit surtout à aimer les gens autour de nous. Chacun de nous devrait vivre pour glorifier Dieu comme il devrait être, mais nous avons tous, une fois de l'autre, échoué à glorifier Dieu comme il devrait l'être. Ça arrive. On n'a pas parlé de cela, mais ça arrive des fois. En fait, Paul a écrit en Romains, chapitre 3, verset 23, tous, en effet, ont péché. Tous. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas vraiment la bonne nouvelle. Hein. Nous sommes tous des pécheurs. Mais il y a une phrase dedans. Et quelle est la significance de « sont privés de la gloire de Dieu » Oui, pour moi, cela signifie qu'aucun de nous ne fait assez confiance en Dieu. Et aucun de nous ne l'aime suffisamment. Oui, des fois oui, mais des fois non. Parce que nous ne sommes pas pleinement satisfaits de sa grandeur. Et nous n'avons pas marché toujours dans ses voies. Et nous avons cherché, malheureusement, notre satisfaction en des autres choses. Et nous avons considéré parfois des autres choses plus précieuses que Dieu. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est vrai. Juste cette mentalité, c'est l'origine de l'idolâtrie. Et depuis que le péché est entré dans le monde, en Genèse, depuis ce moment-là, nous avons tous été très résistants à faire de Dieu le trésor qui nous comble. J'ai loupé un peu l'ordre, c'est pas grave. J'ai dit que le fait que nous avons considéré les autres choses plus précieuses que Dieu. Et voici l'origine de l'idolâtrie, qui est le cinquième, le Romains, chapitre 1, versets 21 et 23.
Puisque tout en ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ne l'ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans des raisonnements futiles, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se prétendant sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire de Dieu en des images représentant l'être humain périssable, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles.
Merci. Tout en ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils ont plongé dans les ténèbres. Ils ont créé des images représentant l'être humain périssable, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Ça, c'est l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, ce n'est pas toujours des reptiles, ni des oiseaux, ni des vaches en or. Peut-être le travail, nos familles. Et oui, j'ai dit l'HM. Là, c'est le rugby. Parce que je connais des gens, hein, qui vivent et mort dépendant du score. Donc, il y a plein de choses qui peuvent tirer notre attention de Dieu vers les autres choses. Ephésiens, chapitre 2, verset 3. Quelqu'un peut le lire? C'est le numéro 6.
Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois, selon les désirs de notre chair, nous faisions les volontés de notre chair et de nos pensées, nous étions par nature voués à la colère, comme les autres.
Merci Philippe. nous faisons la volonté, des fois, de notre chair, la volonté de nos pensées. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Ce n'est pas ce que Dieu demande de nous. Et en vivant comme ça, comme cela, c'est vraiment une grande injure à la grandeur de Dieu. Quand on dit, oui, Dieu, je t'aime, mais par ma vie, j'aime les autres choses plus que toi. Et on ne jamais le dirait à Dieu. Mais des fois, on vit comme ça. Et c'est vraiment une injure à la grandeur de Dieu. Jérémie, chapitre 2, versets 12 à 13.
Sois-en atterré, ciel, frémis et dessèche-toi, déclaration du Seigneur. Car mon peuple a doublement mal agi. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau.
Merci, Eric. Waouh! Ces versets me frappent. Vraiment. Quand tu dis, mon peuple a doublement mal agi. Ils m'ont abandonné. Moi, la source d'eau vive. Pour creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Donc, ils ont tourné de la source d'eau vive pour creuser des citernes. Des citernes crevassées. Oh, on dit pourquoi on fait ça? Pourquoi ça fait aucun sens? Mais quand on oublie la grandeur de Dieu, de ce qu'il est, on fait la même chose de temps en temps. Et j'ai donné quelques versets à les autres. Excuse-moi, je l'ai loupé complètement. Pardon. Donc, nous avons tous échoué à glorifier Dieu comme il devrait d'être. Quatrièmement, c'est de pire en pire. Hein. Nous sommes tous sujets à la condamnation juste de Dieu. Parce que comme c'est écrit en Romains, chapitre 6, le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous avons tous sous-estimé la gloire de Dieu, comme on l'a fait, en mettant tout un tas d'autres choses au-dessus de lui. Et à cause de notre ingratitude, de notre manque de confiance en lui, et de notre désobéissance. Dieu est donc juste lorsqu'il nous tient éloignés de la joie de demeurer dans sa gloire à jamais. La deuxième lettre, la Thessalonicienne. Cela aura pour juste châtiment, une destruction éternelle, loin du Seigneur et de sa force glorieuse. Et quand on parle de ce mot, on parle souvent de l'enfer. Et le mot enfer, des fois, parfois, traduit gain, est utilisé 12 fois dans le Nouveau Testament, 11 fois par Jésus lui-même. Et cette idée de l'enfer, cette idée de gain. Il ne s'agit pas d'un mythe inventé par des sinistres prédicateurs colériques. C'est une mise en garde solennelle du Fils de Dieu qui est mort pour délivrer les pécheurs de cette malédiction. Des fois, nous l'ignorons à nos risques et périls. Et si la Bible s'arrêtait ici, que nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous sujets à la condamnation juste, parce qu'il est parfait, la condamnation juste de Dieu. Si la Bible s'arrêtait ici, dans son analyse de notre condition humaine, nous serions condamnés à un avenir sans espoir. Mais cependant, les choses ne s'arrêtent pas là. Cinquièmement, Dieu a envoyé son Fils unique pour nous donner la vie et la joie éternelle. Vous n'êtes pas très joyeux ce matin. N'oubliez pas, il y a 12 semaines qu'on a fêté le Pâques. Avec plein de cerises, plein de joie. Et 12 semaines plus tard, on parle de le fait que Dieu a envoyé son Fils unique pour nous donner la vie et la joie éternelle. Et tu me regardes comme ça. Oui, c'est bien. Dépêchez-toi. Non, je blague. Mais pense vraiment, je sais que tant que chrétien, on le sait que Dieu a envoyé son Fils unique. On sait qu'on a la joie, on a la joie éternelle. Mais vraiment, comme Timothée a écrit, c'est une parole certaine et digne d'être pleinement accueillie. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. C'est notre but, hein? C'est notre projet d'église, faire des disciples qui font des disciples, qui feront des disciples, etc., etc., etc. Et ça commence avec la conversion. Le fait que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et la bonne nouvelle est que Christ est mort pour des pécheurs. Des pécheurs comme nous. Et il est ressuscité physiquement des morts pour valider la puissance salvatrice de sa mort et ouvrir la porte de la vie et de la joie éternelle. Mes frères et mes sœurs, il y a de la joie éternelle dans le Seigneur. Quelqu'un peut lire le 1 Corinthiens. Chapitre 15, verset 20.
Mais le Christ s'est bel et bien réveillé d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui se sont endormis.
Amen, merci. Il est bien réveillé d'entre les morts. Il a vaincu la mort. Et cela signifie que Dieu peut acquitter les pécheurs coupables tout en restant juste. Parce qu'il est Dieu. Christ aussi a souffert, et c'est une fois pour toutes, pour les pécheurs. Lui, Jésus le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Magnifique. Magnifique. Et notre demeure auprès de Dieu est l'endroit où nous trouvons notre satisfaction profonde et éternelle. Sixièmement, les bénéfices rachetés par la mort de Christ appartiennent à ceux qui se repentent et qui mettent leur confiance en lui. Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soit effacé. un peu plus loin dans les Actes, dans Actes chapitre 16. Crois au Seigneur Jésus et tout sera sauvé. Et se repentir signifie de détourner des fausses promesses que nous fait miroiter le péché. La foi implique que nous sommes satisfaits de tout ce que Dieu nous promet en Jésus-Christ, qui, comme Jésus a dit, croit en moi, n'aura jamais soif. Nous ne pouvons gagner notre salut. Quand je parle des gens dans la rue, au jour, des loups différents, comment aller au ciel? Être bon. Ce n'est pas le cas. Nous ne pouvons gagner notre salut. Nous ne pouvons le mériter. Nous le recevons par grâce au travers de notre foi. C'est un don gratuit. C'est le don de Dieu. Et nous le recevrons si nous le voulons par-dessus tout. Et lorsque nous faisons cela, l'objectif que Dieu avait pour sa création est accompli. Il est glorifié en nous. Et nous sommes satisfaits en lui pour toujours. Donc j'ai deux questions afin de terminer. Premièrement, est-ce que cela vous parle? Ce matin, est-ce que vous désirez cette joie qui vient de fait être satisfait de tout ce que Dieu est pour vous en Jésus? Et si c'est le cas, alors Dieu est à l'ouvre. Il est à l'écoute. Il est à l'ouvre dans notre vie. Et si tu as des questions concernant le salut, concernant Jésus, concernant Dieu, viens me voir après le culte. Viens voir Eric, Fabrice, Philippe, des autres. Et la deuxième question, c'est, on a des infos, donc quoi faire? Quoi faire? Détournez-vous des fausses promesses de péché. Faites appel à Jésus pour vous sauver de la culpabilité, du châtiment et de l'esclavage. En Romains 10, c'est écrit, « Quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. » Et commencez à placer votre espérance en tout ce que Dieu est pour vous par Jésus. Et brisez la puissance des promesses du péché grâce à votre foi en la satisfaction suprême que nous donne la promesse de Dieu. Et pour nous tous, commencez à lire de plus en plus la Bible afin de trouver ces précieuses promesses qui ont le pouvoir de nous libérer. Je vous encourage, si vous ne fréquentez pas une église habituellement, de trouver une église comme la nôtre qui croit en la Bible. Louez Dieu, grandir entouré des autres personnes qui aiment Jésus par-dessus toute autre chose. Dans ce monde, il y a de l'idée qu'on ne peut pas être chrétien et heureux au même temps. Ça vient de des années. Hein. Mais le fait reste qu'il n'y a pas nécessairement de conflit entre notre bonheur et la sainteté de Dieu. Lorsque nous sommes satisfaits dans tout ce que Dieu est pour nous en Jésus, nous faisons de lui notre plus grand trésor. Le psaume 16, verset 1 nous dit, « Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. » On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Merci. Prions, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, que tu nous as créés de te glorifier. Tu es digne d'être glorifié, Seigneur, digne d'être loué. Et oui, Seigneur, parfois, on échoue à te glorifier. Mais Seigneur, tu es bon. Et tu as envoyé Jésus, son Fils unique, pour nous donner la vie, pour nous donner la joie éternelle, pour comprendre nos circonstances. Et Seigneur, nous pouvons mettre notre confiance en toi pour tous nos besoins, tous nos soucis, Seigneur. Nous te donnons tout. Au nom de Jésus, Amen.